Bon baiser du mort de Rachel de Caro. Œuvre publiée sous licence Creative Commons BYNCND 3.0 en lecture libre sur atramenta.net. Bon baiser du mort. Pierre Duroc arrive bien avant l'heure du rendez-vous devant le 13 rue des Frères Lumière. Quelques personnes patientent déjà devant l'entrée du cinéma Pâté Ciné. Il se joint à leur groupe tout en observant les lieux avec attention. Tout est à la fois si semblable et si différent. Les murs des immeubles de part et d'autre du cinéma sont restés les mêmes, plus vieux, plus crasseux encore. Cela fait, voyons, 40 ans qu'il a vu ce coin pour la dernière fois. 40 ans loin de ce cinéma, revêtu aujourd'hui de vitres, de chrome, de miroirs et de lumières tapageuses, et qui fut autrefois un merveilleux terrain de jeu, un extraordinaire univers investi par son enfance, jusqu'à ce que son père le vende à sa retraite et qu'il déménage pour un quartier de banlieue. Avec les yeux du souvenir, Pierre Duroc le voyait plus grand, plus riche, plus mystérieux, oubliant que les velours étaient plutôt râpés, les bois vernis un peu écaillés, les dorures assez ternies sous un éclairage intime qui aidait à cacher les petites misères. Mais en revanche, que de célébrités en avaient hanté les heures de gloire, au gré des projections. Les grandeurs du cinématographe, de ses origines au temps futur, avaient ébloui son vieil écran écartelé au bout des rangs de fauteuils. Des fauteuils profonds et chaleureux que seul l'âge rendait moins confortables, à cause des ressorts qui menaçaient de les transformer en sièges éjectables. Pierre Duroc, avançant dans sa file vers la caissière isolée par une vitre, se souvient de leur cavalcade dans la pénombre, des complots ourdis dans l'obscurité, des peurs secrétées par le noir et le jeu brutal d'un trait de lumière d'une lampe électrique. La dame derrière l'hygiaphone ne ressemble en rien à la mère de Myriam Poli. Elle est jeune, blonde, maquillée, les ongles et les lèvres d'un rouge égal. Madame Poli, elle, était plus, disons, familiale, comme une concierge à l'entrée de sa loge qui recevrait ses locataires. D'ailleurs, il est vrai que les gens qui venaient au Pâté Ciné étaient davantage, pour la plupart, des habitués fréquentant ce lieu avec une régularité et une fidélité remarquables. Les moquettes récentes sont déjà défraîchies. Des escaliers ont été rajoutés pour desservir les nouvelles salles qui ont été créées dessus et dessous. Le cinéma était bien agrandi depuis son origine. Il doit être devenu un vrai labyrinthe. Pierre Duroc se demande s'il y a encore des enfants qui y jouent après la fermeture. Rendez-vous le 18 mars à 21h, cinéma Pâté Ciné, salle du rez-de-chaussée, film Bon baiser du mort. Pierre Duroc, son ticket à la main, s'avance en consultant une feuille de papier pliée en quatre qu'il tire de sa poche. Le texte est signé « En souvenir des mousquetaires ». Les mousquetaires, c'était leur héros favori. Ceux dont ils avaient maintes et maintes fois revêtu les rôles, c'était toute leur histoire. Lequel avait griffonné ce message? Pierre Duroc était bien incapable de le deviner. 40 ans qu'ils avaient été séparés, et pourtant il lui semblait que c'était hier. Qu'était-il devenu? Les reconnaîtrait-il? Il s'installe au milieu de la salle et regarde autour de lui, guettant les arrivants sans trop oser les dévisager. L'éclairage maigre s'éteint peu après, laissant la place aux vives lueurs des présentations des films qui seront bientôt à l'écran. Pierre Duroc, tout à sa nostalgie du moment, en ces lieux qu'il reconnaît à peine, regrette les courts-métrages, documentaires et actualités qui présidaient autrefois à toute projection. Cacahuètes, soda, esquimaux, bonbons. La voix mercantile de l'ouvreuse du jour est engageante, et Pierre Duroc se laisse tenter par un sac de caramel mou enrobé de chocolat noir, délice de son enfance que sa brioche récalcitrante lui interdit depuis bien longtemps. Les lumières aussi ternes de l'entracte ne lui permettent pas de renouer connaissance avec un visage familier, et c'est avec la bouche engluée de sucre fondant qu'il commence à regarder le film « Bon baiser du mort », tout récent et dont la critique dit grand bien. Le film s'avère à la hauteur de sa réputation, bien digne de plaire à un cinéphile aussi averti que Pierre Duroc. L'intrigue bien menée garde son mystère jusqu'à la fin. Les acteurs semblent n'en pas être et jouer leur vrai rôle dans la vie, une vie où le crime, à la limite du frisson, trouve son juste châtiment. Une histoire comme il les aimait, passionné de polar, autant que de films de cap et d'épée, de péplum fantastique, de grandes sagas romantiques ou d'épopées burlesques et comiques. Pierre Duroc se laisse prendre à ces bons baisers du mort avec la sensation d'un adieu à ses souvenirs qui l'entourent, une déchirure un peu douloureuse. Quand la lumière triste et mesquine se rallume, le spectateur, tiré de l'enchantement du film, s'étire, s'agite, se lève et s'éloigne. Pierre Duroc, attentif, guette encore les visages. Là, il lui semble reconnaître Silvio da Silva, dans ce personnage qui, comme lui, scrute la pénombre. Ils s'avancent l'un vers l'autre, quand une voix de femme l'interpelle. « Pierre, excusez-moi, seriez-vous Pierre Duroc ?» Il se retourne. « Myriam ? Myriam Poli ?»« Oui, anciennement Poli, ex-Chaumont, et de nouveau Poli. »« Ex-Chaumont ? Oui, Robert et moi avons été mariés. » À ce moment-là, le troisième personnage s'approche et se présente. « Athos et Milady, n'est-ce pas ?»« Porthos, comment vas-tu, vieux ?»« Comme tu vois. Alors, vous aussi avez répondu à l'invitation ? Qui l'a écrite ?»« Pas moi. Moi non plus. Serait-ce D'Artagnan ou Aramis ?» Pierre Duroc, Athos, fils du propriétaire du pâté ciné, Myriam Poli, Milady, fille de l'ouvreuse du pâté ciné, Silvio da Silva, Porthos, fils du concierge portugais de l'immeuble qui fermait la cour arrière du pâté ciné, enchantés de se retrouver, entament une discussion animée. Leur voix pourtant murmurée attire l'attention d'un quatrième personnage. Fabien Dart, dit D'Artagnan, le copain d'école qui, avec Robert Chaumont, formait le quatuor des trois mousquetaires au temps des grands jeux du pâté ciné. Il ne manque plus qu'Aramis. Toi, Myriam, qui as été mariée avec lui, ne l'as-tu pas reconnu dans la foule ?
Tu sais, Pierre, il y a bien longtemps que nous nous sommes séparés. Je l'ai revu il y a un an environ, mais s'il ne m'avait pas dit son nom, je n'aurais pas su que c'était lui. Il était à la fois si semblable et si différent. Sais-tu que le scénario de Bon baiser du mort est extrait d'un de ses romans ?
C'est pas vrai.
Si ! D'ailleurs, cette histoire de rendez-vous ici, c'est bien de lui, j'aurais dû m'en douter.
Le plus étonnant, c'est qu'il ne soit pas venu.
Oui, pourquoi ce rendez-vous ?
Un cri de terreur horrifié leur coupe tout à coup la parole. Près des derniers rangs du fond, l'ouvreuse, blonde comme la caissière, ouvre grand une bouche carminée, assortie à ses ongles, tandis que ses mains pressent ses joues en proie à la panique la plus totale. Ses appels au secours attirent les mousquetaires du pâté ciné. S'approchant du lieu, Pierre, d'un regard professionnel, juge la situation. Prenant l'ouvreuse par les épaules, il la fait asseoir sur un siège à l'écart, puis il interdit à toute autre personne d'avancer vers l'homme affalé dans un fauteuil. Il lui tâte le poignet, par acquis de conscience, bien que la large tache qui orne sa chemise du côté du cœur laisse peu d'illusion sur son état. Sur le rang de fauteuil devant, à demi glissé entre l'assise relevée et le dossier, un revolver luit à peine dans l'obscurité ambiante. Il recule alors avec précaution et ordonne « Téléphonez à la police, cet homme est mort. »«
Il a été !»
Allait l'ouvreuse affolée. « Il s'est peut-être seulement suicidé, » réplique Pierre Duroc pour la calmer. Puis il répète son ordre à la caissière du pâté ciné venue les rejoindre. « Appelez la police et ne touchez à rien. » Tout le monde attend les autorités, en un cercle à la fois curieux et patient. Pierre Duroc regarde ses compagnons. À Myriam, très pâle et bouleversée, il conseille de s'asseoir. Elle refuse de la tête et souffle. « Vous ne le reconnaissez pas, mais c'est Robert. Robert Chaumont. Aramis. »«
Bon Dieu, mais c'est bien sûr !»
s'exclame Fabien Dard.
« Tu me piques ma réplique, » grommelle Pierre Duroc, agacé de ne pas avoir reconnu son ami de toujours en cet homme maigre, émacié encore davantage par la mort qui grise ses joues.
« Qu'est-ce qu'il a changé ?» murmure Silvio da Silva, lui qui était si enveloppé. En fait, il était très malade, condamné même.
« Que dis-tu, Myriam ?
La dernière fois que je l'ai vu, il y a un an à peu près, il m'avait dit être atteint d'un cancer qui avait été décelé trop tard. Il refusait de se soigner, sachant que l'issue serait de toute façon fatale.
il refusait aussi de souffrir.
Il se serait suicidé ? Il n'en avait pas parlé à ce moment-là.
Il semble difficile de se tirer une balle en plein cœur et d'aller déposer le revolver sur le rang de siège devant, murmure Pierre Duroc, intrigué par la position éloignée de l'arme par rapport aux morts.
Tu veux dire que qui pourrait en vouloir à un homme dont les jours étaient déjà décomptés ?
Je n'affirme rien, je constate.
La police, arrivée sur les lieux, se livre aux constatations d'usage. Pierre Duroc se présente aux autorités. Pierre Duroc, commissaire de police.
Les enquêteurs délégués saluent leurs confrères avec respect et lui demandent son avis. Il leur fait part de ses doutes quant au suicide.
« C'est aussi ce que je pense », conclut le jeune inspecteur Labarre.
Le médecin de service effectue un bref examen du mort, puis le corps est enlevé, après une multitude de clichés. Le flash puissant de l'appareil photo troue sans pitié l'obscurité, comme pour chasser les fantômes de son enfer. Les yeux encore éblouis, Pierre Duroc voit un fragment de papier tomber de la poche de Robert Chaumont. Il le ramasse avec précaution et lit le message. Écrit avec des lettres découpées dans un journal, une phrase anonyme s'étale au milieu. « Un jour, il faudra que je te bute, Chaumont. » L'inspecteur lit aussi le texte et jubile.
« Vous aviez raison, commissaire, c'est bien un meurtre. »
Avec douceur, pour freiner les ambitions du jeune collègue sans le vexer, Pierre Duroc explique. « Je ne crois pas. Cet homme s'appelait Robert Chaumont. Mes amis ici présents et moi étions copains avec lui lorsque nous étions enfants, et ce jeu de mots sur le nom de Robert était l'un de nos cris de guerre. »
Abasourdi, presque déçu, Labarre murmure
« Ah, vous vous connaissiez ? Quand l'aviez-vous vu pour la dernière fois ?
Il y a 40 ans. »
Du coup, l'inspecteur estomaqué ne trouve qu'à balbutier
« Mais comment ? Pourquoi ? Pourquoi êtes-vous là ?»
Les mousquetaires restants et Milady montrent alors avec un bel ensemble les invitations qu'ils ont reçues.
C'est Robert qui les a rédigées. Il nous a en quelque sorte convoqués pour son film.
Son film ?
Bon baiser du mort est inspiré d'un de ses romans. Donc Robert nous a convoqués pour son film et sa mort.
Son assassinat ?
Peut-être, mais peut-être pas.
Robert ne manquait ni d'humour ni de panache.
D'après Myriam, il était condamné à brève échéance par la maladie. Il est donc capable d'avoir imaginé un scénario pareil.
Un scénario ?
Mais comment se peut-il que personne n'ait rien vu, rien entendu ?
Pendant la projection, le noir était complet. De plus, tous les yeux étaient braqués sur l'écran. Quant à la détonation, il y en a eu pas mal dans le film. Pour peu que la vraie se soit produite au bon moment, elle a été couverte par les bruitages.
Commissaire, est-ce que je peux vous parler à un instant, seul à seul ?
Les deux hommes s'éloignent de quelques pas, puis l'inspecteur questionne, hésitant, avec l'impression de commettre un sacrilège.
« Dites, commissaire, vos amis, est-ce qu'ils sont au-dessus de tout soupçon ? Ou bien... »
Pierre Duroc dissimule un sourire et soupire.
« J'aurais tendance à le croire, mais sait-on jamais ? Ne suis-je pas moi-même un suspect possible ?
Oh, commissaire !
Si, si, mon cher, à part mon titre, que connaissez-vous de moi ?
« Jamais je ne pourrais.
Ah, vous en verrez bien d'autres et de bien moins belles. Mais trêve de philosophie, je pense plutôt que Robert Chaumont, pour partir en beauté de ce bas monde, nous a monté un canular à sa façon. Reste à le prouver. Entre autres, comment le revolver a-t-il pu échouer dans le rang devant ? Y a-t-il des empreintes dessus ?»
Pierre Duroc pose ses questions au policier chargé de relever les traces.
« Non, commissaire, aucune empreinte sur l'arme. »
Et pourtant, le mort ne portait pas de gants.
Et, ajoute le médecin qui s'apprête à partir, a priori, le coup n'a pas été tiré à bout portant. D'une part, il n'y a aucune trace de brûlure et de poudre caractéristique. D'autre part, la balle a traversé toute la poitrine de l'homme pour s'enfoncer dans le dossier du fauteuil où il était assis. Et sa trajectoire présumée semble interdire toute possibilité de tir à bout de bras, d'autant plus qu'il aurait dû tenir l'arme de la main droite.
Or, Roger était gaucher, je m'en souviens bien. C'était chez lui un motif d'orgueil. Comment le savez-vous ?
Je l'ai présumé avoir les doigts de sa main droite maculés de nicotine. C'était un grand fumeur, n'est-ce pas ?
Oui, il allumait clope sur clope.
Or, s'il avait été droitier, pour ne pas être gêné par ses cigarettes, il les aurait tenues de la main gauche pour libérer l'autre main.
Bien vu. Mais alors, comment a-t-il pu se tirer une balle dans le cœur et être sûr de ne pas se rater ?
même s'il n'avait pas touché le centre vital du cœur, l'hémorragie à elle seule l'aurait tué.
Mais il a dû souffrir. Comment avons-nous pu ne rien entendre ?
S'il était très malade, il devait posséder des calmants, voire de la morphine. S'il en avait absorbé, il n'a pas dû souffrir. Ou si peu par rapport à ce qu'il avait dû déjà endurer. Les analyses détermineront tout cela.
Oui, merci docteur.
Pierre Duroc se tourne vers le jeune inspecteur. Me permettez-vous d'examiner les lieux de plus près ?
Mais c'est vous qui savez le mieux comment mener l'enquête,
se récrie la barre.
À peine ironique, Pierre Duroc précise sa pensée.
Ne craignez-vous pas que je puisse faire disparaître quelques indices compromettants, ou que j'en rajoute ?
Oh, commissaire, s'indigne la barre, confus, j'ai confiance en vous.
Pierre Duroc s'approche du fauteuil qu'occupait Robert Chaumont. L'assise du siège a été bloquée en position d'ouverture pour mieux situer la scène. Un tracé à la craie indique la position du corps. Le trou de la balle et la tache de sang matérialisent l'impact. Une croix blanche sur le rang devant rappelle l'emplacement du revolver. Pierre Duroc cherche à imaginer la trajectoire en alignant les différents repères. Cela passe de façon quasi exacte par la jointure de deux dossiers du rang avant. Il aura coincé son arme entre ces dossiers. La puissance du coup aura rejeté le revolver en arrière, pense Pierre Duroc. Mais comment a-t-il pu tirer ? Il s'avance encore et s'accroupit pour trouver un indice qui conforterait son hypothèse. Il passe la main sur la moquette douteuse, évitant avec dégoût les chewing-gums écrasés et les bâtons de glace poisseux. Une sensation imperceptible retient son attention, comme un fil de nylon qui roulerait sous ses doigts. De fait, l'instant d'après, il exhibe un fil de pêche aussi fin qu'invisible. Triomphant, il se relève. « Voilà le tueur !»«
Comment ?»
Robert Chaumont avait placé son arme entre ses sièges, cran de sûreté ôté, prêt à tirer, la gâchette nouée par ce fil. Il tenait l'autre bout dans la main gauche. Si cela avait été de la droite, vu sa position, il aurait fait tomber l'arme lorsqu'il a tiré. Pour déclencher le tir, le fil devait se serrer à fond pour presser la gâchette. Il restait à trouver, pour Robert, la meilleure position pour être touché au cœur. Cela explique qu'il soit autant affalé de travers dans son fauteuil. C'était bien joué.
Alors il s'agit bien d'un suicide. Ce n'est pas un crime,
questionne l'inspecteur, presque déçu. La suite de l'enquête, les résultats du labo, devraient confirmer cette hypothèse. Oui, il s'agirait bien d'une mort volontaire. À ce moment-là, un policier s'approche. « Excusez-moi, inspecteur, mais voilà un commissionnaire qui doit remettre en main propre un paquet à monsieur le commissaire Duroc. Savez-vous de qui ? Donnez-le au commissaire. Dites-moi, jeune homme, comment savez-vous que le commissaire Duroc allait se trouver ici, à ce moment-là ?
Je n'en savais rien. J'avais ordre de livrer ce paquet au Pâté-Ciné le 18 mars à 23h30, à ce monsieur. C'est chose faite.
Avez-vous le nom de la personne qui a ordonné l'envoi ? Le commissionnaire sort son carnet de sa sacoche. Monsieur Robert Chaumont, le 9 mars.
Date à laquelle ont été postées nos invitations, complète Pierre Duroc. Tout concorde.
Nous avons là la preuve que ce que j'avançais est vrai. Et Pierre Duroc ouvre l'enveloppe. À l'intérieur, un paquet de feuillets dactylographiés et une lettre manuscrite. Presque un testament que Pierre Duroc lit avec une émotion croissante. Puis il transmet ce message à ses amis Silvio da Silva, Porthos, Myriam Poli, Milady et Fabien d'Arte, d'Artagnan, qui suivaient en silence l'enquête de Pierre Duroc, Athos, sur la mort de Robert Chaumont, Aramis. Chacun, à leur tour, ils le lisent. Myriam écrase une larme. Silvio retient mal un sourire ironique et amer. Fabien hoche la tête avec une mimique complice à l'adresse de Pierre. Puis le commissaire Duroc donne la feuille et le reste de l'envoi à l'inspecteur Labarthe, en disant « Je vous remets ceci jusqu'à la conclusion de votre rapport de police, mais je souhaite récupérer ce qui m'est adressé. Nous partons, mais je reste à votre disposition pour vous aider si vous avez besoin d'un éclaircissement pour la fin de votre enquête. Bonsoir, inspecteur.
Allons-y, les mousquetaires.
Bonsoir, commissaire. Salut là-bas, désarmé. » Ce n'est que lorsque Pierre Duroc et ses compagnons ont quitté les lieux du drame qu'il lit enfin la lettre testament de Robert Chaumont. « Mon cher Pierre, mes chers mousquetaires, milady chérie, moi, Robert Chaumont, saint d'esprit, à défaut du corps, vous ai donné rendez-vous pour le 18 mars au Pâté-Ciné pour bon baiser du mort. Je n'ai plus le courage de souffrir davantage. mon médecin préféré vous le dira. Je vais donc ce soir-là mettre fin à mes jours. Ma vie aura été bien remplie, j'en ai bien profité, et je partirai sans autre regret que celui de ne pas avoir réalisé plus de choses. Cependant, il m'est impossible de mener plus loin ma barque. J'espère que vous ne m'en voudrez pas de cette mise en scène. Je sais que Pierre, en bon commissaire qu'il est, saura trouver la vérité avant même d'avoir reçu mon envoi. Si j'ai choisi ce lieu, c'est en souvenir de ce qui nous a si longtemps unis et qui est devenu la période la plus lumineuse de ma vie qui se termine. Parce qu'alors, nous étions si heureux, si insouciants, et que le monde nous appartenait. Dans les feuillets joints, j'ai imaginé, écrit cette soirée du 18 mars, avec tes yeux, Pierre. Pierre Duroc arrive bien avant l'heure du rendez-vous, devant le 13, rue des Frères Lumière. Quelques personnes patientent déjà devant l'entrée du cinéma. Je n'ai rien oublié de vous, de nous. En souvenir de ces jours, je souhaiterais obtenir de vous une faveur. Accepteriez-vous, à vous quatre, de terminer ce texte et de le donner à mon éditeur ? Je le lui ai promis, et en échange, il m'a assuré de le publier sous nos 5 noms, afin que nous soyons unis pour la fin des temps. Merci de le faire si vous avez encore gardé quelque amitié pour moi. En tout cas, je serai à jamais votre ami mousquetaire, avec pour une fois la devise inversée, un pour tous, tous pour un. À vous tous pour jamais. Robert Chaumont, Aramis. Ici se termine Bon baiser du mort par Rachel de Caro. Enregistré par Christiane Johanne.